Info matin, Lionel Sabot.
On essaie de construire un accord, déclare Manuel Valls, qui espère aboutir à une baisse d'ici mardi. Dès le début de ce journal, retour sur les deux premières journées de la visite du ministre des Outre-mer en Calédonie. Un homme activement recherché à la fois ce dimanche, un homme d'une vingtaine d'années s'est évadé, menotté de la gendarmerie. Un jugement qui pourrait totalement bouleverser la vie politique française. C'est ce soir pour nous que Marine Le Pen sera fixée sur son sort dans le cadre du procès dit des assistants parlementaires. Le président américain menace d'imposer de nouvelles taxes sur le pétrole russe si la Russie et les États-Unis ne sont pas capables de parvenir à un cessez-le-feu en Ukraine. Le sport, le football, la suite de la 27e journée du championnat de France de Ligue 1 et le FC Nantes qui s'est incliné face au Havre, 3-2. Mauvaise séparation pour les Canaries dans l'optique du maintien. Le temps de votre début de semaine, encore globalement nuageux, avec encore des averses, températures. Elles seront en légère baisse, comprise entre 27 et 30 degrés au meilleur de la journée.
Bienvenue dans Info Matin pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. Bonjour Lionel.
Bonjour Thierry, bonjour à toutes et à tous.
Et à la une, l'actualité en Nouvelle-Calédonie.
Une négociation intensive depuis samedi au Haut-Commissariat où les séances plénières et les bilatérales se succèdent entre le ministre des Outre-mer et les délégations des groupes politiques. Dès l'ouverture des discussions, samedi, Manuel Valls a appelé les partenaires calédoniens à faire un pas décisif vers un compromis global, à faire preuve d'audace et à se hisser à la hauteur de ce moment décisif et historique. Lors d'une petite récréation hier matin au marché de Nouméa, Manuel Valls s'est exprimé pour la première fois sur ces négociations et sur la nécessité d'aboutir.
C'est l'appel à la responsabilité et au principe de conséquence. Tout le monde pense qu'il faut un accord, parce que sans accord, la Nouvelle-Calédonie se perdra sans investissement, sans avenir, avec les préparations d'élections provinciales dans les pires conditions et une crise de confiance importante. Donc il faut trouver une voie commune. C'est difficile, je le sais bien. Les positions sont lointaines les unes des autres et puis il y a eu les événements du 13 mai. Mais je crois qu'il n'y a pas d'autre choix que de trouver un accord et l'État, en tout cas le gouvernement, par ma présence, cherche à faire en sorte qu'on puisse avancer sur des bases qui soient les meilleures. Il faut que tout le monde pense à la Calédonie et aux Calédoniens. En son lien avec la France, bien évidemment, redressement de l'économie, l'État apporte, soutient, assure aussi la sécurité. Mais le destin ici, c'est aux Calédoniens de le prendre en main. Donc on va essayer de travailler au cours de ces journées de manière la plus concrète, que tout le monde reste autour de la table, s'écoute et on essaie de construire un accord. Ça ne sera pas facile, je le sais. Et si c'est nécessaire, je reviendrai autant que nécessaire. Mais je souhaite que d'ici à mardi, on aboutisse à une base.
Cette visite du marché de Nouméa en compagnie de Sonia Lagarde a été une petite parenthèse pour le ministre des Outre-mer. Il souhaitait discuter directement avec les Calédoniens pour prendre le pouls de la population. Et de retour au commissariat, il a remis aux différentes délégations un nouveau document qui est un projet d'accord sur l'avenir institutionnel. C'est ce qu'a annoncé Pascal Vittori, le président de l'Association française des maires qui participe aux négociations au sein de la délégation Rassemblement.
Le ministre a pris des initiatives, hein, c'est ce que tous les groupes politiques attendaient, puisque les groupes politiques avaient donné leurs intentions et leurs limites. Tout le monde attendait que l'État prenne des initiatives. C'est ce que le ministre a fait ce matin en remettant un document à toutes les personnes autour de la table, qui est un projet d'accord que sont en train d'examiner toutes les délégations. Je crois qu'aujourd'hui, tout le monde parle de négociation. Plus personne ne parle de discussion autour de la table, c'est clair, on parle de négociation. Je suis optimiste dans la mesure où tout le monde est encore autour de la table. Tout le monde joue le jeu et donc c'est plutôt positif. Je pense que le ministre a essayé de satisfaire tout le monde. Après, c'est toujours difficile, il y a des points de friction. C'est là que vont intervenir les négociations. Je pense qu'avec de la bonne volonté, un compromis est possible.
Et rien n'a filtré de ce document sur lequel les délégations doivent encore travailler, qui servira de base de négociation à d'ici demain mardi. En marge des négociations, le ministre des Outre-mer déjeunait hier midi avec les maires de Nouvelle-Calédonie, Michael Juneski.
Ce déjeuner de travail a permis d'évoquer les nombreux problèmes que rencontrent les communes ainsi que les premières mesures d'ordre économique pour leur venir en aide. Un entretien constructif selon Florentin Dédane, le président de l'Association des maires de Nouvelle-Calédonie à dominante indépendantiste.
D'abord, une très grande écoute pour les maires. C'est la deuxième fois qu'Emmanuel Valls reçoit l'ensemble des maires de Nouvelle-Calédonie. Puis surtout, il donne la parole aux maires et il attend des retours sur ce qui se passe dans les communes, ce qui se passe sur le terrain. On a parlé finances, bien sûr, hein, puisque c'est toujours un sujet pour les communes, à la fois de la reconstruction et puis des difficultés des communes à fonctionner et à emprunter. Mais on a aussi parlé des problèmes de scolarité, on a parlé également de sécurité, puisqu'il y a de nombreux problèmes de sécurité qui continuent à se poser. On a parlé santé et sociale, puisqu'on manque de personnel médical, et là l'État envisage, au travers d'une convention avec le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, d'apporter une aide, aussi bien pour envoyer des personnels que pour former des personnels locaux. On a parlé mines également, puisque c'est un sujet pour les communes minières, mais pas seulement. Voilà, de nombreux sujets qui concernent bien sûr les communes de Nouvelle-Calédonie, mais plus globalement les Calédoniens.
Et vous l'aurez rectifié de vous-même, il s'agissait donc de Pascal Vittori, le président de l'Association française des maires de Nouvelle-Calédonie. Je vous propose à présent d'écouter Florentin Dédane, le président de l'Association des maires de Nouvelle-Calédonie.
Il a fait part des dernières nouvelles que l'État il a débloquées concernant les collectivités, surtout du Grand Nouméa, qui concerne les 200 millions d'euros. Et puis aussi des annonces concernant la DGF, dotation globale de fonctionnement, où on a eu l'arrêté cette semaine au niveau du Oussaria, et aussi concernant la DETR, les subventions d'investissement. Et puis en même temps pour le Fonds communal de développement, donc ils ont eu les arrêtés aujourd'hui, pour essayer de relancer un peu l'économie. Et on a aussi demandé, donc ça c'est une nouvelle demande, donc par rapport aux différents maires qui étaient là, donc par rapport à l'enveloppe qui est dédiée aux communes de l'agglo concernant la reconstruction, certains maires ont demandé, ça avait arrivé le cas, de penser aussi aux autres communes, même si on n'est pas touché directement par les dégradations. Mais il y a des sujets qui sont là, qui peuvent prévenir, on va dire, concernant les caméras de surveillance, l'éclairage public, pour prévenir cela, enfin éviter qu'il y ait des dégradations qui peuvent survenir dans les communes de l'intérieur ou des îles. Donc il nous a dit que nous aussi, les maires, on sera indispensables aussi à la discussion pour regarder par rapport aux compétences des communes dans le futur statut. Est-ce qu'on récupère des compétences, ou est-ce que par rapport à ce qu'on a, comment on peut améliorer pour être plus efficace pour la population?
Et notez que l'Association française des maires a remis au ministre des propositions pour augmenter les compétences et le financement des communes calédoniennes. Les deux associations de maires doivent aussi se retrouver prochainement pour déterminer quels sujets elles pourront porter ensemble devant le ministre des Outre-mer.
Autre séquence pour le ministre des Outre-mer. Hier soir, Manuel Valls s'est rendu à l'Université de la Nouvelle-Calédonie pour échanger avec la société civile, Michael.
Un panel très large de personnes représentatives donc de la société civile, toutes générations confondus, étudiants, personnalités du monde associatif, collectif et bien d'autres. Les participants ont exposé leur point de vue, leurs craintes et leurs espoirs. De très nombreux thèmes ont été évoqués. Le 13 mai et ses séquelles dans la société, la place de la jeunesse, la place des femmes et la lutte contre les violences à l'égard des femmes, le manque de moyens pour la culture et l'éducation, la place des enseignements relatifs à l'histoire calédonienne à l'école et bien d'autres. Le ministre s'est prêté volontiers au jeu pour passer la parole à tous ceux qui souhaitaient librement s'exprimer. Il a pris le temps d'écouter et de répondre, parfois avec humour, parfois avec gravité, pour délivrer un message d'espoir après avoir pu discuter avec ces Calédoniens venus de tous horizons. Il appelle la population à prendre son destin en main.
Ce qui m'attache, ce qui nous attache quelques-uns à ce territoire, c'est ce que vous avez exprimé les uns les autres. Il n'y a pas, au fond, c'est cette capacité à essayer de comprendre qui on est et pourquoi on cherche à vivre ensemble. Et ça, c'est assez unique. En étant avec vous ce soir, je le dis sans aucune démagogie, vous me rendez de l'espoir dans cette société calédonienne à travers vos témoignages. La seule chose que je puisse vous dire est la suivante, c'est qu'il faut construire ou reconstruire, je ne joue pas sur les mots. Et notre responsabilité pour le moment, parce que je ne sais pas combien ça va durer, c'est assez précaire le poste de ministre aujourd'hui à Paris, c'est d'aider à ce que les Calédoniens prennent leur destin en main. Je suis sûr qu'ici, il y a une force incroyable dans la société calédonienne. Prenez aussi votre destin en main. Je sais que c'est facile à dire, beaucoup le font à travers les associations, l'engagement, mais faites-le, bousculez. C'est le moment de bouger. Moi, je fais passer les messages. J'essaie de faire bouger les élus, mais je ne veux pas casser. Je ne veux pas casser les possibilités d'un accord. Il y a l'espoir qui est revenu, Les gens se sont parlé, vous vous rendez compte? Les élus se sont parlé. C'est déjà un miracle. Mais il en faut un deuxième, c'est l'accord. Poussez pour qu'il y ait un accord.
Un format d'échange donc sur des thèmes multiples et à la fin une prise de parole de Manuel Valls qui a particulièrement touché l'ensemble des participants. Écoutez ces quelques témoignages.
Betty Levanquet, président de la Banque alimentaire Nouvelle-Calédonie. J'ai trouvé que c'était une réunion vraiment intéressante parce qu'il y a eu des interventions de personnes très différentes, d'horizons différents. J'ai trouvé ça aussi émouvant parce qu'il y a eu des témoignages qui ont touché Et puis, je suis d'accord avec le ministre qui dit que cette soirée lui a donné de l'espoir.
Oui, Maé, actuel président du Sénat coutumier. Ouais. Il est à la fois resté très général, mais en même temps, il a reprécisé, qualifié les fondamentaux quoi, du processus politique. Quoi. Donc, je pense que tout le monde a été entendu. Ouais, il est allé à l'essentiel. Quoi.
Je m'appelle Cassez Amandine. Je suis en deuxième année d'études de droit à l'université. Le ministre était très à l'écoute de cette société civile et je pense qu'il a pu retenir des points importants ou des pistes pour plus tard.
Thibaut Bizien et je suis le coprésident du collectif des associations. C'est bien d'avoir la liberté de s'exprimer, de pouvoir exprimer des choses directement auprès du ministre. Après, c'est vrai que ça aurait pu être intéressant d'avoir aussi nos élus qui puissent entendre ces choses-là. Il y a des sujets de fond sur lesquels on voit que la population est très anxieuse, elle veut des réponses. Il y a une situation urgente qui peut vite déraper. On a exprimé beaucoup de choses aujourd'hui sur le vécu du 13 mai, sur les problématiques vécues par tout le monde. Il faut être sérieux sur une chose aussi. L'État ne solutionnera pas tout. Aujourd'hui, les Calédoniens et les Calédoniennes sont aussi responsables de tout ce qui se passe au pays, les institutions locales et leurs représentants et les élus. D'ailleurs, Monsieur le ministre l'a rappelé, c'est à nous aussi de trouver les solutions à nos problèmes de société. C'est à nous de mettre en œuvre au quotidien les choses qui vont permettre le vivre ensemble.
Je m'appelle Khwachena Douni. Moi, je suis une ancienne étudiante de l'université. Donc, je suis diplômée en licence de géographie et aménagement. Porteuse aussi de projets innovants, c'est-à-dire que j'ai monté mon entreprise et donc je fabrique des éponges végétales. Pour moi, ça a été une vraie bouffée d'air, une vraie bouffée d'oxygène d'entendre les différents témoignages des gens du pays qui sont engagés. Les gens du pays veulent construire ensemble, ils ont envie d'avancer ensemble.
Plus de 2 heures d'échange hier soir donc à la bibliothèque universitaire du campus de Nouville avec quelques 130 invités présents pour échanger avec le ministre des Outre-mer.
Et ce matin, le ministre des Outre-mer se rend dès 8h au lycée La Pérouse pour échanger avec les professeurs, les équipes pédagogiques et les élèves de l'établissement. Il reprendra ensuite les négociations avec l'ensemble des groupes politiques, des discussions qui doivent se poursuivre jusqu'à demain mardi avant que Manuel Valls ne quitte la Nouvelle-Calédonie.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et voici notre question du jour. Selon vous, Manuel Valls va-t-il, comme il le souhaite, obtenir un compromis global d'ici mardi? Si vous pensez que oui, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Vous envoyez bien sûr votre réponse au 3146. Le début de la semaine sera dominé, on l'a vu, par la suite du déplacement de Manuel Valls, qui repart donc demain soir. Mais il y a d'autres rendez-vous à signaler dans les jours à venir, Michael Juneski.
Et d'abord, le lancement ce lundi de la semaine olympique et paralympique 2025 avec le CTOS, le groupement d'employeurs sport et loisirs sud et l'USEP. Des opérations seront organisées, notamment dans des établissements scolaires au Mont d'Or, à Païta, à Yaté, La Foy et à Thiom. C'est aussi ce lundi le lancement de la 5e édition de la semaine du numérique avec des actions menée par le gouvernement, l'université, le vice-rectorat et le cluster OpenNC. Jeudi, la journée mondiale du rein sera relayée sur la commune de Bouraille pour sensibiliser la population aux maladies rénales. Vendredi, la société protectrice des animaux lancera pour tout le week-end son opération de collecte de croquettes. Dimanche prochain, comme tous les premiers dimanches du mois, ce sera le jour du vide-grenier de la ville de Nouméa sur la place des Cocotiers. Le week-end prochain sera également marqué par la réouverture de la chasse aux roussettes et aux nautous en province nord et en province sud. Mais comme le veut la réglementation, cette chasse est ouverte uniquement les week-ends du mois d'avril, à raison de 5 roussettes et 5 notous par jour et par chasseur.
Et puis un rendez-vous sur l'antenne de Radio Rythme Bleu, où en est la préparation du prochain recensement préparé par l'ISEE. Quelles formations reçoivent les agents recenseurs? Jean-Philippe Groutier, chargé de mission recensement à l'ISEE, sera tout à l'heure notre invité du matin. Rendez-vous à 7h30. Au chapitre des faits divers, Michael, un homme est activement recherché à la fois.
Ouais, ce dimanche, l'individu d'une vingtaine d'années s'est évadé, menotté de la gendarmerie de La Foy, alors qu'il avait été interpellé la veille à Canala par les forces de l'ordre. Il participait à une fête qui a dégénéré. Les gendarmes étaient intervenus et avaient subi des jets de pierre. C'est là qu'ils ont procédé à 5 interpellations. Après plusieurs heures de garde à vue, l'un d'entre eux, qui ne serait pas dangereux selon les forces de l'ordre, a donc réussi à échapper à la surveillance des gendarmes. Il s'est enfui de la gendarmerie. De nombreux moyens ont été engagés pour le retrouver, pas moins de 25 gendarmes, dont un maître chien. Les forces de l'ordre lancent un appel à témoins si vous avez la moindre information. Un homme d'une vingtaine d'années, donc on le rappelle, menotté, qui portait un t-shirt bleu. Vous pouvez contacter la gendarmerie de La Foy au 44 87 50, le 44 87 50.
Il est 6h45, on va marquer une première pause dans ce journal. Vous restez avec nous dans un instant, à l'actualité en métropole et dans le monde.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Envie d'un pick-up confortable et robuste ?
Bah, Isuzu D-Max !
Un 4x4 équipé au top pour toute la famille ?
Isuzu D-Max ! Le Isuzu D-Max, double cabine, 150 chevaux, 5 places, et pour vous à seulement 3 690 000 francs. Venez l'essayer et découvrez aussi la série limitée Aito.
Isuzu au village automobile PK4 Nouméa.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Les opticiens mutualistes vous proposent des montures de marque classique ou tendance et des verres top qualité de nos verriers Zeiss ou Essilor. Chez les opticiens mutualistes, trouvez au juste prix les montures et les verres qui vous conviennent pour un vrai plaisir de voir. Les opticiens mutualistes à Nouméa, La Foy et Conné. Un an déjà, Nouméa pas cher à Pogoti souffle sa première bougie. Et qui dit premier anniversaire, dit numéro 1 des bonnes affaires. Des promos dingues, des surprises, des jeux, bref, c'est la fête dans tous les magasins Nouméa pas cher. On déroule le tapis rouge parce que vous êtes numéro 1 pour nous. Alors, prêt à faire la fête ? Nouméa pas cher.
RRB 6h-8h, Lionel Sabot.
Et venons-en à l'actualité juridico-politique en métropole. Nous sommes à quelques heures maintenant d'un jugement qui pourrait totalement bouleverser la vie politique française. C'est en effet ce soir pour nous que Marine Le Pen sera fixée sur son sort dans le cadre du procès dit des assistants parlementaires. Dans ce dossier, je vous le rappelle, Marine Le Pen est accusée d'avoir utilisé les fonds du Parlement européen au profit du Front National, devenu Rassemblement National. Marine Le Pen risque 5 ans de prison, 300 000 euros d'amende et surtout une peine d'inéligibilité de 5 ans qui la mettrait hors jeu de la course à la présidentielle qui est prévue en 2027. Alexandre Chevaux pour Europe 1.
C'est un scénario auquel personne au Rassemblement National n'ose vraiment croire, pas même Marine Le Pen, qui affichait sa sérénité cette semaine dans Le Figaro. « Je me considère totalement innocente des faits qui me sont reprochés », affirme la triple candidate à la présidentielle, qui refuse par principe d'anticiper la décision des juges. Au sein du parti, la question de l'exécution provisoire est d'ailleurs taboue, si bien qu'à ce stade, rien n'a été réellement préparé si cette hypothèse venait à se réaliser. Ni élément de langage, ni plan B, comme si les troupes de Marine Le Pen refusaient d'imaginer ce qui serait alors vu au RN comme un coup de force démocratique. Même Jordan Bardella, perçu comme son héritier politique légitime en cas d'empêchement, rejette ce scénario. Par loyauté ou par excès de modestie, le président du RN refuse de se présenter comme une alternative à Marine Le Pen. Dans l'entourage de la principale prévenue, chacun apparaît donc suspendu à la décision des juges, avec une forme d'impuissance et l'espoir que les juges renonceront à prononcer sa mort politique.
Alexandre Chevaux du service politique d'Europe 1. Marine Le Pen sera donc fixée sur son sort ce soir pour nous et malgré cette affaire, la présidente du groupe Rassemblement National à l'Assemblée Nationale a toujours le vent en poupe dans les sondages d'opinion. Selon un sondage IFOP pour le journal du dimanche, si le premier tour de la présidentielle avait lieu aujourd'hui, Marine Le Pen recueillerait 37% des suffrages. C'est 10 points de plus que le score qu'elle a réalisé au premier tour de la présidentielle de 2022. Des chiffres qui pourraient rester stable, même en cas de lourde condamnation de la chef de file des députés Rassemblement National. C'est en tout cas l'analyse de Bernard Sananès, le président de l'Institut de sondage ELAB.
Ce serait une décision de nature à renforcer vraisemblablement le vote anti-système, en tout cas dans son électorat. Son électorat, l'électorat qui a voté Rassemblement National, l'électorat qui s'est porté sur elle au premier ou au second tour. Rappelons que 23% des suffrages exprimés se sont portés au premier tour sur Marine Le Pen, 41,5% au second tour. Eh bien, ce vote, il est motivé par beaucoup de considérations, mais le rejet du système politique en est une majeure. Donc, on ne peut pas exclure qu'effectivement, ça viendrait renforcer cette dimension, ce qui fait que même s'il y a des conséquences juridiques, évidemment, vous l'avez dit, une inéligibilité possible, c'est quelque chose sur lequel on aurait du mal à revenir. En tout cas, je ne crois pas que son socle politique, le socle politique du Rassemblement National, pourrait être atteint.
Bernard Sananès, le président de l'Institut de sondage ELAB. L'actualité à l'étranger à présent, et cette question ce matin, le torchon brûle-t-il de nouveau entre les États-Unis et la Russie ? Dans une interview accordée à la chaîne de télévision NBC, le président américain a menacé d'imposer de nouvelles taxes sur le pétrole russe si la Russie et les États-Unis ne sont pas capables de parvenir à un accord pour mettre un terme au bain de sang, a-t-il dit, en Ukraine. Donald Trump, qui prévoit de s'entretenir dans les prochains jours avec son homologue russe Vladimir Poutine. Pendant ce temps, sur le terrain, en Ukraine donc, les habitants commencent à perdre patience devant tous les balais diplomatiques de ces derniers jours qui n'ont mené à rien pour le moment. Emmanuel Amara pour Europe 1.
Pour les Ukrainiens rencontrés dans les rues de Kiev, c'est un sentiment de ras-le-bol qui domine. Les accords de cessez-le-feu négociés par les États-Unis sont pour le moment vécus comme une vaste supercherie. Ils ne sont assortis d'aucune garantie. Pour Anastasia, le quotidien reste inchangé.
De tous les pays, les Russes sont les plus grands menteurs. Rien de ce qu'ils disent ne peut être pris pour argent comptant. Il n'y a aucun cessez-le-feu. Nous continuons à dormir dans un abri anti-bombe toutes les nuits.
Mais de là à baisser les bras, pour Alexander, c'est hors de question.
Quelles que soient les pressions, on ne nous forcera jamais à renoncer à notre souveraineté, à notre terre, à notre peuple. Oui, le combat sera plus difficile pour nous, mais nous ne lâcherons rien, même sans aucun soutien.
Cet état d'esprit combatif est palpable dans toutes les couches de la population. Les Ukrainiens attendent également beaucoup de l'arrivée cette semaine d'une importante délégation européenne. À Kiev, Emmanuel Amara, Europe 1.
À l'étranger toujours, en Birmanie, de nouvelles secousses sismiques ont frappé la région de Mandalay, région frappée en fin de semaine dernière par un séisme de 7,7 sur l'échelle ouverte de Richter. Sur place, les secours sont mobilisés pour tenter de retrouver des victimes dans les décombres. Le tremblement de terre de vendredi dernier a fait au moins, selon un dernier bilan, 1700 morts et plusieurs dizaines de milliers de blessés. Un bilan qui devrait s'alourdir dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Antoine Bienveau pour Europe 1.
Notamment dans les temples bouddhistes, dans un temple de Mandalay où plus de 180 moines passaient un examen vendredi lorsque le bâtiment s'est effondré au-dessus de leur tête. 13 d'entre eux ont déjà été retrouvés morts et beaucoup sont toujours sous les décombres. Le visage couvert de poussière, ce moine témoigne de son inquiétude face aux heures qui passent sans signe de vie de ses confrères.
Je ne peux pas décrire à quel point je suis triste ou décrire ce que je ressens. Je n'ai pas de mots face à cette destruction. Je pense que les chances de survie sont faibles, surtout maintenant avec l'odeur de décomposition.
Une inquiétude d'autant plus grande que les décombres s'accumulent après les nouvelles secousses qui ont touché le pays la nuit dernière. En larmes devant le temple, en ruine, cette femme ne sait pas si elle reverra un jour son frère, lui aussi moine, en vie.
Ce que je ressens, c'est une sensation terrible. Je veux entendre le son de ses prêches. Il est très doué pour prêcher. Il a une voix magnifique. Je garde espoir. Je veux le revoir. Je me demande s'il souffre et s'il nous attend. Je veux le revoir.
Un espoir très maigre et un bilan de 1700 morts au total dans le pays qui pourrait encore s'alourdir dans les prochaines heures, car des centaines de personnes manquent encore à l'appel ce soir en Birmanie.
Antoine Bienveau du service international d'Europe 1. J'ajoute qu'hier soir, un peu après 23h, un séisme de 7,1 sur l'échelle ouverte de Richter s'est produit au large des îles Tonga. Une alerte de tsunami a été déclenchée par le centre d'alerte au tsunami dans le Pacifique qui est basé à Hawaï. Une alerte qui a été très rapidement levée. Il est 6h53, on va marquer une dernière pause dans ce journal. Dans un instant, toute l'actualité sportive et la météo de votre début de semaine.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Vous avez besoin de conseils pour faire travailler votre épargne, payer moins d'impôts, préparer votre retraite? Nous sommes là pour vous guider. Avec Caplif, développez votre patrimoine pour construire votre avenir. Contactez Caplif au 28 30 00, RIAS 170 052, ORIAS 13 103.
MyPrimeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achat, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook MyPrimeur Nouméa. Du lundi au dimanche, MyPrimeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite de votre journal avec l'actualité sportive, on retrouve Lionel Sabot.
Et on va commencer avec du football et la suite de la 27e journée du championnat de France de Ligue 1, Mickaël Juneski.
Et le FC Nantes qui s'est incliné face au Havre sur le score de 3-2. Mauvaise opération pour les Canaries dans l'optique du maintien. Nantes reste 13e, mais perd de l'avance sur les clubs de la zone rouge, dont les Havrais. Surtout que le calendrier va s'accélérer dans les prochaines semaines, car la Ligue a prévu des aménagements pour le PSG qui va jouer la Ligue des Champions, et ce au détriment d'autres équipes qui disputent encore des matchs à enjeu cette saison dans le championnat de France. C'est ce que regrette le coach de Nantes, Antoine Comboiré.
Nous, on doit s'adapter. Voilà. Moi, j'ai arrêté de me battre dans des combats qui sont inutiles, quoi. Moi, j'ai juste à me concentrer. Il y a une décision qui a été actée. Donc nous, on n'est pas d'accord, mais on accepte la décision parce qu'elle a été actée par le conseil d'administration. Qu'est-ce qu'on fait ? On se concentre sur le travail et puis on fait ce qu'il faut pour... Parce que se plaindre, pleurer, c'est pas moi.
Les autres résultats du jour. Brest qui a battu Toulouse sur le score de 4-2. Victoire encore de Rennes à Angers 3-0 et d'Auxerre face à Montpellier 1-0. En ce moment même, Lille reçoit le RC Lens. Les Lillois ont pris l'avantage 1-0 à la mi-temps.
En rugby, une dernière rencontre pour le compte de la 20e journée du top 14.
Un duel des extrêmes, le Racing 92, actuellement en grande difficulté, qui reçoit l'Union Bordeaux-Bègles, jouant les premières places. L'UBB 2e du classement, les Racingmen 12e. On joue depuis 30 minutes et le score est déjà de 15-12 en faveur du Racing.
Sur les terrains de rugby à 7, cette fois-ci, pas de médaille d'or pour les équipes de France de rugby à 7 à Hong Kong.
Exactement, l'équipe de France messieurs qui a craqué en finale sur la voie d'un titre. Les Bleus se sont inclinés face à l'Argentine sur le score de 12-7. Les Françaises ont quant à elles échoué au pied du podium, battues par les Canadiennes dans la petite finale 28-5.
En MotoGP, c'est le jour J pour le Grand Prix des Américains.
Et la première info à retenir de cette course qui est en cours, c'est que Marc Marquez est hors jeu. L'Espagnol s'est lancé de la pole position. Il avait déjà gagné la sprint race. Il avait également remporté les deux premières manches de la saison. Mais celui qui est inarrêtable cette saison au guidon de sa Ducati a chuté et a donc dû abandonner. Francesco Bagnaia occupe la tête de la course dans le 12e tour sur les 19. Notez que côté français, Fabio Quartararo est parti de la 11e place. Juan Zarco s'était lancé de la 15e position. Il a réussi à remonter à la 6e place. La course qui se poursuit.
Et puis un petit mot de tennis, Mickaël, avec la finale du Masters Mills de Miami.
Oui, à venir dans la matinée, la finale entre le Serbe Novak Djokovic qui tentera de gagner son 100e titre sur le circuit mondial et il fera face au Tchèque Jakub Mencik, 54e au classement ATP.
Nous allons venir à l'actualité sportive en Nouvelle-Calédonie et il y avait de la voile, Mickaël, ce week-end.
Oui, une quarantaine de participants engagés pour un nouveau rendez-vous 100% skippeuse. Les équipages s'affrontaient donc durant deux jours sur une série de régates avec des navigatrices embarquées sur chaque navire. Écoutez.
Franchement, on est hyper contents. C'est bien de promouvoir les femmes à la barre. C'est cool du coup de naviguer aussi avec des hommes. C'est pas un événement 100% féminin. Donc ça permet de trouver un équilibre sur le bateau entre hommes et femmes, en sachant que du coup c'est quand même les femmes qui lead. Qu'on a fait des belles pointes de vitesse sous spi à 16 nœuds 6 et c'était trop kiffant de surfer dans les vagues, c'était vraiment trop bien. Ça se passe super bien, c'est très chouette d'avoir fait cet événement là où très mixte et avec des femmes à la barre. Donc non, c'est très chouette, ça change un peu de tout ce qu'on voit. Moi je fais de la régate depuis l'âge de 8 ans, ça fait quelques années. Quand je peux, je fais encore des régates, mais beaucoup moins qu'à l'époque.
Nous on régate sur des croiseurs avec Maluco. Donc on régate tous les mercredis. Bah, faut pas hésiter. Franchement, c'est que des bons moments.
Très contente de participer à cet événement et j'espère qu'il y en aura d'autres. Faire des connaissances et vraiment être sur l'eau pour prendre du plaisir, ça c'est cool.
On a choisi notre petite tenue Barbie parce que c'est 100% skippeuse, donc c'est trois femmes et deux gars, mais nous on est cinq.
On est ça,
voilà, cinq femmes, nous. Donc on les a déguisées en Barbie. Mais ils jouent bien le jeu, ils sont top. Vraiment, vraiment sympathique. Et puis voilà, on apprend surtout. Et on passe un bon moment.
Et au classement en général, c'est l'équipage de Marine Canaille qui s'est imposé juste devant Guilty Fox.
Allez, on jette un coup d'œil, Mickaël, à l'essentiel des résultats du week-end sur le territoire.
Et Tiga Sport, tout d'abord, qui a réussi son entrée en lice et en Euroleague, hein, c'est un peu plus loin, hein, aux îles Salomon. Tiga Sport qui a battu les Fidjiens du Rewa FC 4-2. Prochain rendez-vous mercredi à 15h contre Auckland City, les Néo-Zélandais. Le triathlon, Jérémy Broutet de Bourraquet, Mathieu Zalman. Salama Chaki l'emporte chez les messieurs, tout comme Charlotte Robin chez les dames. Du VTT à Nessa Diou, une course organisée par le CSB. Guillaume Dréau l'emporte, tout comme Jessica Belanguez chez les féminines. Du surf à Bouraille, la compétition de shortboard qui lançait la saison en Open, victoire d'Isaac Coste. Et chez les espoirs, c'est Thibaut Bézère qui l'a emporté. Et puis du tennis de table, la coupe d'ouverture du comité provincial sud. 64 participants. Jérémy Day arrive en tête chez les messieurs, tout comme Maëlys Giray chez les dames.
Et puis notez que ce midi, dans le MAC des sports, nous évoquerons la préparation des mini-jeux du Pacifique qui se dérouleront à Palau. Nous recevrons Christophe Dabin, le président du CTOS, le comité territorial olympique et sportif. On termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et les couleurs du ciel, c'est avec vous Thierry.
Oui Lionel, voici donc les prévisions du temps du Centre Météo France de la Nouvelle-Calédonie. Nous sommes en vigilance jaune comme il prévoit. Pluie et orages sur le sud-est de Wailou Ayaté pour un risque de fortes averses jusqu'en soirée. Ce matin, le ciel sera très nuageux à couvert. Sur l'est, de fortes précipitations seront possibles. Sur les autres régions, les pluies resteront intermittentes et souvent faites par endroits. Une averse sera modérée et ne sera pas exclue. Sur Marais, la pointe sud et l'île des Pins, le vent lui orienté nord-est pour ce matin entre 15 et 20 nœuds. Ailleurs, il varie entre 5 et 10 nœuds de nord à nord-ouest. Cet après-midi, le temps sera gris et pluvieux. Les pluies demeurant plus fortes sur le sud-est, mais des averses modérées à fortes sont également possibles aux abords du relief sur la pointe sud et plus localement au Loyauté. Sur Marais, la pointe sud ainsi que l'île des Pins, le vent orienté toujours au nord-est entre 15 et 20 nœuds. Ailleurs, il s'oriente progressivement au secteur ouest entre 5 et 10 nœuds. L'est reste à l'abri de la chaîne pour cet après-midi. Les températures comprises, elles, entre 27 et 30 degrés en général.
Allez, je vous glisse une dernière info à pratique. On va rappeler que la métropole est passée hier à l'heure d'été. Les horloges de la métropole qui ont donc été avancées d'une heure. Conséquence, le décalage horaire entre la Nouvelle-Calédonie et la métropole est désormais de plus 9 heures. La fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, sera disponible d'ici quelques minutes en réécoute sur notre site internet rrb.nc. Dans un instant, le rappel des titres, la chronique de la semaine écoulée. Et vous avez un avis, vous nous appellerez au 25 46 46. A tout de suite.